Voilà. Nous sommes à Actes chapitre 2. Je ne sais pas si vous vous rappelez. J'ai terminé, nous avons terminé avec les versets 22 à 36. Hein. Mercredi dernier, quand il était venu le temps de nous séparer, de corps du moins, je venais de terminer le verset 36. Toute cette belle séquence qu'on avait, où Pierre expliquait aux gens, à la foule, aux gens de la foule, ce qui venait de se passer, il leur expliquait le sens, l'origine de l'effusion de l'esprit, la personne qui est au centre de l'effusion de l'esprit, le fait que l'effusion de l'esprit est une promesse ancienne de Dieu dans l'Ancien Testament. Il a fait cela magistralement bien sous l'onction seule et nécessaire du Saint-Esprit de Dieu. Et jusqu'au verset 36, je fais que vous rappeler le verset 36, il termine son discours ou bien sa prédication, c'est la même chose dans le contexte. Hein, dans le contexte, c'est la même chose. En disant que toute la maison d'Israël, acte 2, verset 36, il conclut son sermon, son allocution pastorale, en disant que toute la maison d'Israël sache avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Donc, il a tout mélangé ça ensemble. La venue du Christ, la promesse du Messie, la venue du Messie, la mort du Messie, la résurrection du Messie, aussi le don de l'Esprit dans le Messie. Dans le Messie. C'est ça le saut de fait là. Où songez ça? Peut-être mieux que votre serviteur. On va lire maintenant les versets 37 à 47. Ces versets-là vont nous aider à revoir. J'imagine que vous avez déjà vu la réaction des gens à l'allocution de Pierre. Et la suite des choses, voilà. On va dire ces versets-là, 37 à 47, va nous donner une partie de la suite des choses, de la suite de cette démarche apostolique. Je lis pour vous, acte 2, versets 37 à 47. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjura, il les conjurait, il les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3 000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de miracles et beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Que le Seigneur bénisse sa parole pour notre plus grande édification, mes frères et mes sœurs. Alors voilà, et je ne peux pas, j'imagine que vous avez lu ce texte au moins une cinquantaine de fois de votre vie de disciple. Et moi-même, je me rappelle quand j'étudiais l'Église, je voulais parler de la naissance de l'Église et j'avais considéré ce morceau, ce texte. Hein, on l'a débattu ensemble déjà. Maintenant qu'il se trouve dans le contexte du livre des Actes, pas besoin de le sauter nécessairement. On va dire quelque chose. Et de toute façon, quand on l'avait étudié dans le contexte de l'étude thématique de l'Église, les deux approches ne seront pas les mêmes. En tout cas, l'intention n'est pas la même. N'est pas la même. Donc, c'est-à-dire que il y a des détails. Il se pourrait fort bien qu'il y a des détails qui vont être donnés ici, qui n'ont pas été donnés dans le contexte où on avait étudié, quand on parlait de l'Église ou bien de la naissance de l'Église. Voilà. C'est pas du tout la même chose. Alors, numéro un, vous l'aurez remarqué, les gens, hein, la foule ou les gens de la foule avaient une réaction à la locution, bien au discours, bien à la prédication de Pierre. C'est la première chose à noter pour comprendre la continuité, qu'il y a dans ce contexte-là, dans l'écriture. Ils ont réagi. Ils ne sont pas restés indifférents. Est-ce que c'était eux toutes? C'est à voir, mais ce qu'on sait, il y en a qui ont manifesté qui ont été convaincus, voilà, qui ont été touchés, oui, par ce que venait de dire l'apôtre Pierre. Là, Pierre venait de les accuser. C'est le terme. Pierre venait de les accuser. Pierre venait de les inculper, en quelque sorte, d'avoir rejeté le Messie, hein, leur Messie, leur Christ, leur Seigneur. Il venait de les accuser, non seulement d'avoir rejeté leur Messie à eux, mais également, il vient de les accuser d'avoir exécuté leur Messie. Ils auraient pu le rejeter, le mépriser, l'ignorer, sans nécessairement l'exécuter, le mettre à mort. Mais Pierre vient d'expliquer, ils ont fait les deux. Très clairement, sans ambages, sans langue de bois, sans tourner autour du pot. Vous l'avez fait mourir. Et maintenant, la Bible dit au verset 37, qu'on vient de lire en tout premier lieu, jusqu'au verset 47, qu'après avoir entendu les paroles de Pierre, le discours de Pierre, eh bien, ces auditeurs, ces gens à qui il s'adressait, ont eu le cœur vivement touché. Gloire à Dieu. Ils ont eu le cœur vivement touché. La parole de Dieu ne retournera pas vers Dieu sans avoir fait son effet. Ils ont eu le cœur vivement touché. Qui l'aurait cru? Mais tout est possible. parce que notre Dieu est souverain sur tout cœur. Hein? Ça veut dire que ils sont remplis de remords. Hein? Dans le contexte, c'est ça que tout je veux dire. Ils sont remplis de tristesse. Ils sont remplis de chagrin, voire de remords. Hein? On pourrait même dire qu'ils étaient remplis, hein, de sentiments de culpabilité. Hein? Ils ont le cœur vrai, vivement touché. Et il y a plusieurs raisons qui expliquent ce cœur vivement touché, ce sentiment de remords, ce sentiment de tristesse, de chagrin, de peine, de culpabilité. Plusieurs raisons l'expliquent. Hein? D'abord, ils sont conscients que c'est vrai, que c'est eux qui ont exécuté le Fils de Dieu, le Messie. Hein? Ils ont attendu un Messie pendant des siècles. Hein? Ce Messie, c'est l'espoir, hein, de leur promesse personnelle à chacun, à chaque juif, à chaque hébreu, si vous voulez, à chaque israélite, si vous voulez. Et puis, c'est leur promesse nationale. Ah, la promesse est faite à chacun et à la nation d'Israël. La promesse du Messie. Et le Messie est enfin venu. Le Messie est enfin venu. Et au lieu d'accueillir le Messie avec empressement, au lieu d'accueillir le Messie avec action de grâce, avec reconnaissance, eh bien, comme Pierre le dit, ils ont rejeté le Messie et l'ont livré à leur pire ennemi, au pire ennemi du Messie, en l'occurrence les Romains. Et ils l'ont livré pourquoi? Pour qu'il soit mis à mort. Donc, voyez-vous comment le péché, bah, on a fait mou. Le péché, ouais, jusqu'où le péché est capable de mener nous. Le discours de Pierre va susciter en ces gens-là, va faire naître en ces gens-là un sentiment de remords alors. Parce que, vous l'avez vu, le Saint-Esprit de Dieu a fait son œuvre. Il a donné à Pierre une sagesse hors pair pour la circonstance, une sagesse bien appropriée pour la circonstance. Pour mon prédicateur là, chaque fois qu'on le prêche en côté, dit Seigneur, bon moyen onction pour la circonstance. Monsieur Côté, Monsieur Nicodème, et Adouan, yo. Bah là, non, bah non, conseil. Aux gens pour nous prier. Peut-être nous fait ça déjà. Ou prier, bon Dieu, pour bon onction. Mais l'opral tel côté, ou dit, Seigneur, bon mon onction pour circonstances. L'opral dans tel contexte. Et c'est ça qui veut là. Pierre chargé onction sous lui déjà. Mais frères et sœurs, si moi, avant prendre le temps d'analyser parole ça, démarche ça, Pierre fait là, c'est pas une question de compte biblique. C'est pas Pierre qui a parlé là. Qualité parole ça yo, qui pour faire mon cœur du ça yo, yo convaincu de péché, de justice et de jugement, où est le travail là, ce fait là? Ils ont eu le cœur touché. Ils ont craqué, on va le dire comme ça. Ils ont cédé. Gloire à Dieu. C'est tout à leur honneur et tout à la gloire du Seigneur. Ils ne peuvent pas imaginer un pire péché que ce qu'ils ont commis. Ils viennent de s'en rendre compte, car le Saint-Esprit de Dieu vient de leur parler droit au cœur et droit dans les yeux. Alors ils ont craqué. Ah, une autre raison, pour laquelle Ils ont eu le cœur vivement touché. Il ne faut pas se le cacher. C'est qu'ils craignaient la colère du Messie. Parce que Pierre vient de leur parler de fidélité de Dieu, qui a promis et qui a donné son Saint-Esprit, qui a promis et qui a donné son Messie, son Sauveur, le Sauveur d'Israël. Et en même temps, Pierre leur parle du jugement de Dieu à venir. Ah, donc, il y a quelqu'un qui est touché aussi parce qu'il craint le jugement du Messie. Ils viennent de réaliser que Dieu peut jouer. Le Dieu qui a promis à le Messie l'a donné, qui a promis le Saint-Esprit l'a donné, et le Dieu qui a promis le jugement le donnera aussi. Je crois qu'ils avaient le cœur touché aussi par crainte de la colère à venir. Et Pierre vient de leur dire que ce même Jésus qu'ils ont crucifié est maintenant vivant. Hein? Vous songez? Verset 24, verset 31, verset 32. Et pendant que Pierre disait cela, Pierre cite le psaume 110. Hein? Le psaume 110 est un psaume de jugement. Il parle de la destruction des ennemis de Dieu, des ennemis du Messie. Alors, pour cette raison-là aussi, ils ont peur du jugement du Messie. Ainsi, frères et sœurs, bien-aimés en Christ, dans leur angoisse, dans leur chagrin, dans leur peine, dans leur culpabilité, dans leur remords, dans leur désespoir, ces gens, gloire à Dieu, nous voyons ces gens dire à Pierre, demander à Pierre, homme frère, que ferons-nous? Alors, pas juste à Pierre comme le chef du collège des apôtres, mais aussi aux autres apôtres qui étaient sous le leadership de Saint-Pierre. Homme frère, que ferons-nous? Alors, il y aurait les hauts frères parce que c'est fréo, c'est juste pareil. C'est fréo du point de vue de la religiosité juive, hein? Frère en termes de concitoyens. Homme frère, que ferons-nous? Gloire à Dieu. Il s'interroge, il cherche un moyen, il se questionne sur comment corriger le tir, comment corriger leur erreur, leur pire erreur, pour éviter de connaître le jugement divin, la colère du Messie. Alors, comme je le disais tout à l'heure, par la grâce du Seigneur, ils étaient convaincus de péché, de justice et de jugement sous le ministère de Pierre, dans l'onction de l'Esprit de Dieu. Alors, ils posent la bonne question. J'ai l'impression que c'est pour la première fois de leur vie, ils ont posé cette belle question-là, la plus grande, la plus belle question de leur vie, sur comment obtenir le salut. Ils se sentent coupables, ils paniquent devant la colère du Messie à venir et maintenant, ils veulent se soumettre à la volonté de Dieu, à la volonté du Messie, pour réparer ce qui pouvait l'être encore. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et au verset 38, vous l'avez vu, Pierre leur dit, repentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Repentez-vous. On l'a vu, vous et moi. Hein? Je parlais de la repentance pour le salut dans la congrégation quand je faisais des études thématiques vers quoi? Novembre, décembre, je ne me rappelle plus. Hein? Je parlais beaucoup de la repentance pour le salut. Hein? Je disais que le mot repentance désigne un changement de but, un changement d'orientation, un changement de direction. Je me rappelle vous avoir dit que la repentance, c'est le fait de se détourner du péché pour se tourner vers Dieu. Un double mouvement. Ah, gloire à Dieu. Un double mouvement. On se détourne pour se tourner. Gloire à Dieu. À Thessaloniciens 1er, verset 9, en l'occurrence. Et la repentance, on avait vu que c'est un élément important, essentiel, indissociable de la conversion. Je parlais de la conversion en même temps que de la repentance pour le salut. Jean-Baptiste en parle, repentez-vous, le Christ en parle, repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Matthieu 4, verset 17, on en a raffolé, vous et moi, on se rappelle. Et il prêche, le Nouveau Testament prêche la repentance en vue du salut, la repentance pour le salut. Les auditeurs de Pierre créent le jugement. Ils ont le cœur touché par la parole de Dieu. Ils sont conscients de leur péché et en même temps, ils créent le jugement du Messie. Hein? C'est déjà bien. C'est déjà bien de demander à rencontrer le Seigneur pour échapper au jugement dernier, au jugement divin, au juste jugement de Dieu, à la sainte colère de Dieu. C'est déjà quelque chose. C'est quelque chose, c'est bien. Toutefois, frères et sœurs, vous l'aurez remarqué, la vraie repentance ne doit pas être motivée seulement par la crainte du jugement de Dieu. Elle ne doit pas être motivée seulement par la peur de la colère de Dieu. C'est biblique, c'est correct. Mais elle ne doit pas être motivée seulement par cela. Hein? Il y a un homme de Dieu qui a dit ceci. La fausse repentance fait redouter les conséquences du péché, mais la vraie repentance fait redouter le péché lui-même. Ah, voyez-vous, le diable est dans les détails, comme on dit. La vraie repentance fait haïr le péché pour ce qu'il est, c'est-à-dire un affront à Dieu, une rébellion à Dieu. Hein? Cela dit, le vrai motif pour une repentance, pour le salut, doit être le fait que le péché est mauvais pour soi, le péché est mauvais pour Dieu, dans le sens où Dieu est le péché, Dieu déteste le péché, Dieu avec péché, c'est l'accident. Mais c'est déjà quelque chose si ces gens-là sont touchés par crainte du jugement. Et Dieu merci, on l'a vu, ce n'est pas seulement la crainte du jugement qui les a motivés. Le peuple a rejeté Dieu, la foule et leurs compatriotes ont rejeté le Messie. Hein? Ils ont accusé leur Messie de blasphème, on l'a vu ensemble, ils l'ont exécuté injustement. Et maintenant, Pierre les appelle à Acte 2, verset 38. Pierre leur donne la solution à leur problème, le remède à leur péché. Pierre leur donne le remède à leur péché. Il les appelle à tourner le dos à ce péché, à cette résistance au Messie. Au rejet du Messie et à accepter le Messie pour ce qu'il est, pour ce qu'il dit être, c'est-à-dire le Messie, le Fils de Dieu. Pierre leur dit aussi, regardez bien, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Pour nous toutes là, qui t'es passé classe baptême, nous connaissons que verset ça a toujours cité. Pas grand monde là, qui t'es fait classe baptême, en bonne et due forme, pour enseigner en classe baptême, n'a pas étudié verset ça avant. Pour qui ça? C'est parce que les moniteurs classe baptême, moi, disons que il y a deux tendances Et on tendance qui croit que baptême sauve moun. Et on tendance qui croit que baptême pas sauve moun. Moi, alors, nous appartenons à la deuxième tendance. Nous croyons que le baptême ne sauve pas. Hein? Le baptême ne sauve pas. Baptême pas sauve moun. C'est moun qui sauve qui baptise. Ça, c'est abécédaire de l'évangile apostolique. De l'évangile baptiste. Mais, vous connaissez, il y a quelques hommes de Dieu et femmes de Dieu que nous respectons, vous et moi, hein, qui ne croient pas ça comme ça. Mais c'est des hommes et des femmes de Dieu, oui. Ils ne croient pas ça comme ça. Alors, c'est pour ça, dans le baptisme, chaque fois, il y a une classe baptême, verset ça a toujours monté, toujours paraître. Pour qui ça a toujours paraître, c'est parce que nos frères et sœurs d'autres congrégations chrétiennes qui croient que baptême m'a sauvé mouvement, verset ça, il y a toujours, c'est yon dans quatre premiers versets de choyo. C'est yon dans quatre premiers versets de choyo pour yon soutenir ça yon quoi. C'est-à-dire que baptême sauvé mouvement. Eh bien, c'est pour ça. Moi, je dis que c'est sûr que verset ça, ou l'île, ou commenter l'île plusieurs fois, c'est pas ces classes baptême. Ça dépend de qui nous gagne comme enseignant dans la classe baptême. Alors, on referme la parenthèse. Hein. C'était une digression pour juste pour vous dire que ce verset prêtait à confusion. C'est ça que je voulais dire par là. Je voulais dire par là, par cette digression, que ce verset prête à confusion. Il y a des hommes et des femmes de Dieu que nous respectons, hein, qui sont de vrais chrétiens, mais qui pourraient l'appuyer sur verset ça pour dire que pour quoi nos bagailles qui relaient la régénération baptismale. Voilà. Pour quoi nos bagailles qui relaient la régénération baptismale. Que de l'eau baptême, ils jouent un rôle dans le salut monde. Bon, moi, avant, nous connaissons que ce n'est pas vrai. OK? Ce n'est pas vrai. Et pas seulement dit ce n'est pas vrai, rapidement, ma prébaille, ma petite en souligne. M'en font titan sous lit, parce que son point de doctrine que lié. Vous voyez? Son point de doctrine que lié, m'en font titan sous lit. Même juste que tantôt qui côté m'bralé là-dedans. Donc, deux vérités a déjà, et m'en va laisser développer pour vous-même, ok? Pour ce t'as croisé au monde, qui croit en l'autre bagaille, l'autre tendance là, et puis qui t'a barré ou qui t'a saigné ou avancé ça, pour qu'à prendre ça pour dire. Voilà. Voilà un peu le but. Ok? En appelant chacun de ceux-là à qui il s'adressait à être baptisé au nom de Jésus, l'apôtre Pierre les appelle à démontrer publiquement qu'ils se détournent de leurs péchés et qu'ils se tournent à Jésus-Christ. Là, Pierre, les frères et bien-aimés, ces futurs bien-aimés-là, les à chacun à se faire baptiser au nom de Jésus-Christ, il les appelle à témoigner publiquement, à démontrer publiquement qu'ils se détournent de leur péché, qu'ils tournent le dos au judaïsme, avec toute sa beauté comme fausse doctrine, et puis à se tourner publiquement par le fait même au Messie qu'ils ont rejeté. Donc ici, nous avons le baptême comme un acte public. Jean et moi avec vous, comme toute église baptiste, nous pratiquer, eh bien, le baptême. L'affirmation de Pierre concernant le baptême pour le pardon de leurs péchés jouait mauvais tour à un pile congrégation sœur. Yeah. Et c'est comme si grammaticalement, il a raison dans j'ai interprété verset ça. Parce que Pierre dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Hein? Parce que vous et moi, nous apprenons mon bagage qui est complément circonstanciel de but. C'est comme si c'est baptême nan, kapal bay pardon peche ya. Non, se pa sa sa vle di. Non. Apparemment, se sa sa vle di grammaticalement, men, quand on rentre dans le fond des choses, ce n'est pas ce que ça veut dire. Hein? Ça peut vraiment tromper quelqu'un qui n'analyse pas le texte, qui n'utilise pas tous les outils théologiques qu'on doit utiliser normalement pour analyser un texte. Il y a des outils théologiques qu'il faut utiliser pour analyser un texte. Il y en a plein. Il y en a plein. OK? Alors, Jésus n'est pas en train de dire que Pierre n'est pas en train de dire là, l'air va baptiser, péché va pardonner. C'est pas ça le dit là. OK? Très, très important de comprendre ça. Le salut n'est pas une question de baptême. On vous l'a enseigné dans la classe baptême ou déjà. En fait, on juste passé sous les ça. Le salut n'est pas une question d'eau. OK? Le salut est une question de repentance. Hein? Le salut est une question de soumission, de se détourner du péché et de se tourner vers Dieu. Donc, le salut est une question de soumission à la volonté du Seigneur. Hein? Le salut s'obtient par la foi. On a regardé ça ensemble, octobre, novembre, décembre, quand j'étudiais la repentance pour le péché. Et puis, nous avons parlé tout à l'heure, je te parlais tout à l'heure, nous avons parlé tout à l'heure de outils théologiques pour nous comprendre ça lié dans la Bible. Il y en a un outil, ça reprend ça lié, c'est reste la Bible. C'est ça la Bible dit sur le même sujet ailleurs, dans d'autres livres. C'est un principe d'interprétation. Gardez sur le même sujet, qui ça la Bible dit ailleurs. Et l'on va finir ça la Bible dit ailleurs, sachant que la Bible n'est pas en contradiction avec elle-même, alors comprendre que ça que tu dis là, c'est pas de saleté, c'est de comprendre ça. C'est en apparence l'idée ça, puisque ailleurs l'Écriture dit autre chose, l'Écriture dit autre chose. Et comme l'Écriture ne peut pas ce qu'on peut dire, alors ça que tu dis là, c'est pas que ça t'est vrai. Dans le livre des actes, dans tout, hein, dans tout le livre des actes, le pardon est lié à la repentance et non au baptême. Pas oublier, hein? Dans tout le livre des actes, n'a tout n'est sous texte à eux, n'a tout n'est sous le. Sous verset 37, sous verset 38 à eux, n'a pas quelques principes d'interprétation. Le salut est lié à la repentance et non au baptême. Acte 3, verset 19, par exemple. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Baptême pas là. Acte 5, verset 31, verset 20, 26, verset 20. Hein? Et dans le même livre des Actes, la parole de Dieu va mentionner des gens qui sont baptisés, mais qui ne sont pas sauvés. Voyez-vous? Et à Acte 8, verset 13, 21 à 23. Et le même livre, le reste de l'Écriture, le Nouveau Testament, va nous présenter des bien-aimés qui sont sauvés sans qu'il ne soit dit à de ces bien-aimés-là qu'ils ont été baptisés. Luc 7, verset 37 à 50. On va citer. Le bandit à la croix, à qui Jésus dit, aujourd'hui même, tu seras dans le paradis avec moi. Il s'était pas fait baptiser. Donc, c'est le contraire qui est vrai. Alors, pasteur, nous comprenons ce dit là, mais ça, Pierre ferme là. Pourquoi Pierre dit ici, le français est clair, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est comme si tout ceci, donc, était lié au baptême. Non, il n'est pas lié au baptême. Le don de l'Esprit n'est pas lié au baptême d'eau. Et le pardon des péchés, donc la vie éternelle, le salut, n'est pas lié au baptême. Nous voulons comprendre que Pierre t'a dit ça parce que habituellement, c'était comme ça. Dès pour mon accueil, il est baptisé. Donc, Pierre ici fait tous les deux fait un seul. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Parce que habituellement, c'est toujours comme ça se passe. Même côté mon affine, repentir, les baptiser même côté. Donc, Pierre, dans tête Pierre ici, c'est repentez-vous, cap mener le pardon des péchés, et cap mener le don de l'esprit, c'est pas baptême. Tout comme aujourd'hui. Même si aujourd'hui, autant de 6 mois avant baptiser, autant de 8 mois, guess, autant de 2 ans avant baptiser, mais on t'est en sauvé avant. Mais dans tant papier, toute le Jean-Baptiste a fait baptême, yo. Mais même côté mon a toujours baptisé. Alors, bien dit, repentez-vous et que chacun de vous va baptiser, puisque c'était la pratique de l'époque. Et alors, vos péchés seront pardonnés, mais péché pardonné n'a pas lié à baptême, non? Lié seulement à repentez-vous. En tout cas, c'est ce que le reste de l'écriture, c'est ça qui fait sens par rapport au reste de l'écriture. C'est cette interprétation de ce verset qui fait sens au reste, comparativement à ce que le reste de l'écriture montre sur cette question de salut versus baptême, etc. J'espère que je n'ai pas besoin de m'étendre davantage là-dessus, frères et sœurs en Christ. Eh bien, vous l'aurez compris, il y a tout le temps de ces passages bibliques qui sont capables sembler mettre des désaccords entre des groupes chrétiens, on va le dire comme ça. Mais comme je vous ai déjà dit, depuis un monde, pas rejeté le Christ, il pas rejeté Saint-Esprit, il pas rejeté bon Dieu, il pas rejeté le retour du Christ, il pas rejeté vous connaissez, un bon noyau Dieu a déjà. Ça pas empêché les sont chrétiens évangéliques pour autant, OK? Alors, voilà. Verset 39. On est mûr pour passer au verset 39. Donc, depuis qu'on a commencé à parler, on a épuisé deux versets, 37 et 38, mais ça vaut le coup, frères et sœurs. Et Pierre qui continue, quand il a répondu à leur question de savoir, homme, frère, que ferons-nous? Hein? Au verset 39, Pierre continue de leur répondre. N'oubliez pas, ils demandent à Pierre, ils ont le cœur touché par la prédication de Pierre, nous fait remarquer le docteur Luc. Ils ont demandé, mais comment s'en sortir, hein? Comment se guérir? Pierre vient de leur expliquer, repentez-vous, c'est tout, et baptisez-vous. Et vous recevrez, dont ça, ouais, tout le monde se rejoindra, vous rejoignez tout. Ce ne sera pas de la même manière, de manière spectaculaire, donc, dans du bruit du vent, semblable au bruit du vent. Non, ce ne sera pas nécessairement le cas. Hein? Cela se fera toujours de façon miraculeuse. Hein? Ils vont recevoir le don de l'Esprit. Jean et moi avant te recevoir. Toujours de façon miraculeuse que le Saint-Esprit de Dieu vient faire sa demeure en moi. C'est un miracle, mais ce ne sera pas un miracle qu'il va faire avec bruit, trompette, tambour. Alors, Pierre va au secret, repentez-vous. Une fois péché pardonné, cet esprit vient habiter la caille, parce qu'on déjà vu une petite bon Dieu. OK. Et Pierre de leur dire au verset 39, car la promesse, gloire à Dieu, car la promesse, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et à ce verset, en attendant que je parle de ce verset, je vais dire, ce verset souligne la souveraineté de Dieu. Hein? On commence par fin verset. On commence à expliquer au verset par fin verset. Il dit, quand il dit, il y a en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Hein? Nous avons ici la souveraineté de Dieu. Hein? Et c'est lui qui les appelle. Gloire à Dieu. Alors, vous l'aurez remarqué, Pierre dit à ses concitoyens que le don du Saint-Esprit de Dieu n'est pas seulement pour eux. C'est sûr que c'est pour eux, mais ce n'est pas seulement pour eux. Hein? Le don de l'Esprit que vous avez, que l'offrir, n'est pas seulement pour eux-mêmes. La promesse, dit Pierre, est pour vous, certes. Elle est pour vos enfants, la promesse du Saint-Esprit, du don de l'Esprit. Elle est pour vous, certes. Elle est pour vos enfants, hébreux, juifs, israélites, certes. Mais pas que. Elle est aussi pour ceux qui sont au loin, comme vous et moi, pour les Haïtiens, pour les Grecs, pour les Américains, pour les Africains, les Ghanéens, les... Pourquoi nommez-les? Et c'est eux qui sont au loin. Ce sont eux, le eux qui, ceux qui sont au loin, fait référence à d'autres nations de la terre. Ah, le salut n'est pas seulement pour Israël. Israël est un instrument de salut, un instrument de grâce. Israël est un témoin, est le premier témoin. Ah, gloire à Dieu de l'Alliance. Ce sont eux et leurs enfants, la nation d'Israël donc, qui doivent recevoir, hein, le Saint-Esprit de Dieu en premier, hein, qui doivent recevoir le Saint-Esprit de Dieu d'abord. Gloire à Dieu, selon la promesse de l'Ancien Testament, on les a vus ensemble, Ésaïe 43, verset 3, Ézéchiel 36, on a étudié ça ensemble, Ézéchiel 37, Joël 2, la promesse est pour eux d'abord. Oui, personne ne peut nier cela, personne ne peut leur enlever cela. Hein? La promesse est pour eux d'abord. Je suis venu pour les brebis perdues d'Israël. Hein? Mais ils doivent partager, gloire à Dieu. Ils sont appelés à partager la bénédiction, cette bénédiction du don de l'Esprit avec tous ceux et toutes celles qui sont au loin. Gloire à Dieu. En l'occurrence, les païens, encore une fois. Gloire à Dieu. Et au verset 40, Luc ajoute que Pierre conjure ces gens-là, ses futurs frères et sœurs. Hein, pour l'époque de Pierre, pour Pierre, c'était futur. Pour moi, avec nous, il y a déjà ça, mais pour Pierre, c'était des futurs. Luc nous dit que Pierre les conjure et les exhorte par plusieurs autres paroles. Ah, bon secret là, oui, là. Pourquoi ça veut dire? Ça veut dire que, quand vous comprenez bien là, et par plusieurs autres paroles. Pourquoi ça veut dire? Ça veut dire que discours Pierre Ogé là, son résumé qu'on gagne, on pas tout ça qui a été dit. Parce que docteur Luc lui-même qui écrit, qui faut qu'on rende Dieu à qui bon rapport, les deux, Pierre dit l'autre parole, mais ne pas rapporter l'autre parole. Yo. Comment on lit la Bible? Et par plusieurs autres paroles qu'il ne dit pas, qu'il ne cite pas. Il en a cité beaucoup, mais il y en a qu'il ne cite pas. C'est un résumé qu'il fait du discours de Pierre. Ah, il les conjurait, il les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Voilà. Ils ont l'autre secret encore, mais c'est la même chose. De dire à ces gens-là, repentez-vous, au verset 38, et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur, c'est le remède, c'est le secret pour sortir de leur état de tristesse, de chagrin, de remords, de culpabilité, de condamnation. Mais il va reprendre sous d'autres mots, hein, avec une formule. Toute faite, sauvez-vous de cette génération perverse. Le mot pervers, dans l'original grec, c'est scolios. C'est un mot qui signifie courbé, tordu. C'est ça, pervers veut dire, originellement parlant. Originellement parlant. Original aussi, les deux. Original, originel, les deux dans ce sens. Ça veut dire courbé, tordu. Alors, il y a, dans le contexte qu'on a ici, sauvez-vous de cette génération perverse, c'est sauvez-vous de cette génération tordue, de cette génération courbée, de cette génération bossue, méchante, injuste, inique. Hein? C'est ça ici qu'on a comme génération perverse, génération méchante, injuste, la génération de péché. Il y a, le Christ va parler d'une génération méchante et adultère. Matthieu 12, verset 39. Le Christ va parler de cette génération en disant une génération méchante. Matthieu 12, verset 45. Sauvez-vous de cette génération-là. Chapitre pour nous. Luc 11, verset 29. Hein? Le Christ va parler dans Marc 8, verset 9, dans Marc 9, verset 19, de cette génération en parlant d'une génération adultère et pécheresse. Voilà le sens. Et puis, lui va parler de génération perverse. Là où le Christ parle de génération adultère et pécheresse, adultère et méchante, eh bien, Saint-Pierre, lui, va parler de génération perverse. Mais c'est la même chose. Cela décrit la race incrédule, hein, le monde. Et voilà. Et voilà, frères et sœurs, sauvez-vous de cette génération perverse. Moi, déjà 59 là, je ne vais pas dire rien sur 41 à continuer. Je vais laisser commencer pour m'arrêter. Alors, on a campé là. Aujourd'hui, on a épuisé 37 à 40. On reviendra pour entamer 41 à continuer, si le Seigneur nous prête de vie. J'espère que vous avez été bénis. Alors, je ferme l'enregistrement. Après quoi, si vous n'avez pas de questions ou commentaires, notre bien-aimé frère Jacques voudra bien reprendre l'antenne pour la suite des choses à la gloire du Seigneur.